Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue parmi nous pour cette conversation, cette rencontre un petit peu particulière, puisqu'il va s'agir pendant cette conversation de rendre hommage à une grande figure, une grande dame des lettres et du journalisme américain, qui est John Didion, disparu au mois de décembre 2021. Une auteure qui a beaucoup marqué, je le disais, l'histoire littéraire et l'histoire du nouveau journalisme américain, née au début des années 30, décédée donc en 2021, qui a publié bien sûr de très nombreux textes, chroniques, articles autour de toute l'histoire des États-Unis au fil du XXe siècle, qui a par ailleurs été scénariste de cinéma, on en dira peut-être un petit mot, et puis qui a aussi publié des romans, et notamment un roman qu'il a fait connaître en France, c'était en 2007, qui s'appelle « L'année de la pensée magique » sur la disparition et sur l'année qui a suivi la mort de son époux, de son compagnon de route. Donc on va discuter de tout cela, de ce parcours, de cette œuvre, à la fois du côté du journalisme et des romans. Et pour parler de cela, j'accueille Pierre Demarty. Bonjour mon cher Pierre.
Bonjour mon cher Yann.
Bienvenue à toi, vraiment très heureux de te retrouver pour parler de cela. Tu es écrivain, tu es traducteur, tu es éditeur, aujourd'hui aux éditions Christian Bourgois, on en parlait à l'instant. Traducteur de certains des livres de John Didion, et notamment de ce dernier recueil de textes qui s'intitule Pour tout vous dire, paru aux éditions Grasset, préfacé par Chantal Thomas, qui est quelqu'un qu'on adore. On va en reparler de cette préface. Tu as traduit certains de ses livres, tu as traduit celui-ci et tu connais bien sûr très bien le parcours de John Didion. Et peut-être peut-on commencer justement par ce paradoxe de la notoriété ici en France par rapport à la notoriété qui était la sienne aux États-Unis. Je le disais, c'est vraiment une très très grande figure des lettres américaines et c'est quelqu'un qui est un peu passé à travers, on peut dire, la réception en France jusqu'à la publication de ce roman qui avait eu, je crois, le prix Médicis Essai notamment, et qui a vraiment trouvé son public en France. Peut-être un petit mot là-dessus, sur la manière dont cette œuvre a été peut-être un peu ignorée, mal vue, mal comprise en France, et de cet effet assez fort qui a eu lieu au moment de la parution de ce livre.
Oui, absolument. Cette notoriété, elle se fait pas dans la même temporalité qu'aux États-Unis. C'est vrai que la connaissance de John Didion en France, elle se fait tardivement. Et encore aujourd'hui, elle est assez parcellaire. En réalité, j'irais presque jusqu'à dire qu'on ne fait que commencer à redécouvrir l'œuvre de Didion, qui n'est que partiellement publiée, traduite et connue en France. Alors qu'effectivement, aux États-Unis, c'est depuis un bon demi-siècle, une des figures absolument majeures et incontournables de la littérature américaine. Donc dès les années 60, dès ses tout premiers écrits, elle devient tout de suite culte, iconique, et en tant que journaliste, en tant que romancière, en tant que chroniqueuse de ses époques, parce qu'elle traverse, elle traverse un demi-siècle de vie américaine. Et comme elle est au plus près de ce qui se passe à la fois politiquement, socialement, littérairement, elle couvre comme ça. C'est vraiment une figure qui dépasse aussi le champ purement littéraire. Donc elle a à la fois une aura personnelle très importante là-bas. Elle est vraiment au plus près de l'actualité de son pays, des années 60 jusqu'à sa disparition. Donc elle est connue à des titres divers. Et puis elle a une œuvre vraiment immense, pléthorique. Très diverse. Elle écrit des choses très différentes. Tu as parlé de... Il y a le cinéma, il y a aussi le théâtre, le roman, bien sûr, et puis les essais. Et en France, c'est vrai qu'on la connaît... Alors, elle a été publiée en France assez... dans un premier temps, dans les années 70, mais assez étrangement, ce sont ses romans qui sont publiés dans les années 70-80. Des romans assez... on va dire expérimentaux en termes formels. Et à l'époque, ça ne connaît pas un retentissement phénoménal. Alors qu'aux États-Unis, c'est déjà une immense star, surtout pour son œuvre journalistique. Et puis, il y a une sorte d'éclipse éditoriale qui se fait pendant une bonne vingtaine, presque trentaine d'années. Et en 2007, arrive effectivement ce véritable événement dans sa carrière, qui pour elle, parce qu'elle est déjà assez âgée, c'est une sorte de couronnement, c'est un aboutissement. Et en France, Au contraire, c'est comme une vraie redécouverte. Et il y a toute une nouvelle génération, des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette dame, alors qu'en fait, ils la connaissent sans le savoir, parce qu'ils ont vu des films dont elle a écrit le scénario avec son mari. Et ils découvrent cette femme à travers ce livre assez court, complètement unique dans son genre, et en même temps très classique, parce que c'est un livre de deuil, c'est le livre sur la mort de son mari, qui sera suivi 2 ans plus tard par une sorte de phase B, de penchant de ce diptyque d'une œuvre sur le deuil, puisqu'elle, dans Le Bleu de la nuit, 2 ou 3 ans plus tard, elle parle de la disparition de sa fille adoptive. Et là, effectivement, à partir de 2007, il y a une espèce de reconnaissance très forte en France de l'œuvre de John Didion. Et à partir de là, on commence à exhumer son œuvre antérieure, et notamment ça, ce qui pour moi est sans doute son œuvre principale, c'est son œuvre, je dirais pas d'essayiste, mais de chroniqueuse, de journaliste chroniqueuse de l'Amérique.
Peut-être on peut tout de suite parler de ce terme, hein, de nouveau journalisme. Alors quand on évoque ce terme, on pense à Tom Wolfe, on pense à Norman Mailer, on peut en penser à d'autres d'ailleurs. L'autre jour j'étais avec l'Argentine Leila Guerrero, on pourrait parler de Rodolfo Walsh ou des gens comme ça. Peut-être nous parler un petit peu de cet ancrage-là. Qu'est-ce que ça veut dire que le nouveau journalisme? Qu'est-ce que ça apporte? Comment est-ce que ça s'inscrit? Et notamment dans cette espèce de double rapport qui est à la fois le rapport d'observation, de chronique finalement, notamment des années 60-70, avec finalement cette présence du jeu, cette présence de l'observatrice qu'elle est, une sorte d'implication finalement de l'auteur à l'intérieur du poste d'observation. C'est une définition toute personnelle, mais peut-être nous dire un mot de la manière dont elle s'inscrit aussi dans ce grand courant qui est un courant important de la deuxième partie du XXe.
Oui, elle s'inscrit résolument dans ce qu'on a appelé le nouveau journalisme, terme qui a été forgé par Tom Wolfe lui-même, qui en a fait un recueil, hein, où il appelait ça le nouveau journalisme, et ça, il y avait comme ça une petite nébuleuse de journalistes freelance très indépendants qui s'étaient donné pour mission d'aller observer le monde qui les entourait, politique, social, économique, littéraire, avec effectivement une perspective extrêmement subjective, en se mettant eux-mêmes au centre de l'action, au lieu d'avoir... Donc c'était vraiment une redéfinition drastique de ce que doit ou de ce que peut être le journalisme. Didion, elle s'inscrit dans ce courant-là de manière, il me semble, un petit peu décalée, un petit peu marginale. D'abord, je crois qu'elle-même... Alors, je m'empresse de préciser que je suis vraiment pas un spécialiste de John Didion en tant que universitaire. Je ne suis que son traducteur, mais pour l'avoir du coup lu et pratiqué dans la manière dont elle écrit, elle s'inscrit dans ce courant, c'est certain, mais pas du tout au même titre qu'un Tom Wolfe ou qu'un Norman Mailer. D'abord, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une femme. Norman Mailer, c'est un homme et un vrai. Tom Wolfe aussi. Et je dis ça, c'est assez important parce que ce sont des gens qui ont mis en scène leur masculinité de manière extrêmement forte, parfois même très provocatrice. Et je crois que ce regard éminemment féminin qui est celui de Didion déjà lui donne une place à part dans ce nouveau journalisme qui était très infléchi aussi par l'héritage du... Il y a aussi le journalisme Gonzo, les Hunter Thompson, etc. C'est du journalisme de baroudeur, c'est du journalisme de grande gueule, c'est du journalisme provoque, c'est des choses assez qui vont dans l'extrême. Voilà. Didion, elle a une personnalité beaucoup plus, qui se met beaucoup moins en scène en tant qu'actrice de ses reportages. Norman Mailer se met au centre, il parle de lui, il est vraiment le témoin, l'acteur principal. Tom Lowe, c'est pareil. Elle a un regard qui est toujours assez ambigu, où elle est effectivement, la subjectivité est au centre, la subjectivité est prééminente dans son écriture et dans son travail, mais il n'y a pas de mise en scène de cette, il n'y a pas de théâtralisation comme ça de son propre rôle, et donc elle est toujours comme ça. Hein, d'ailleurs, dans tout ce qu'elle écrit, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, c'est toujours une présence. Elle est toujours là. Elle dit toujours je. Il y a toujours cette subjectivité à l'œuvre, et en même temps, il y a une forme d'effacement. Et Didion est quelqu'un de quand même d'assez discret de par sa personnalité. Elle n'intervient pas. C'est plus un témoin qu'un acteur de son travail de journaliste. Et ça, c'est vraiment une différence assez notable avec ce qu'on entend en général par les auteurs de ce qu'on entend en général par le nouveau journalisme.
Alors ce texte-là, pour tout vous dire, ce recueil-là, il y a un certain nombre de textes effectivement qui traversent comme ça la deuxième partie du XXe, à partir de 68 je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est des textes qui nous rappellent aussi un peu son parcours, de sa naissance à Sacramento, ses études à Berkeley, ses premiers pas au magazine Vogue, la publication ensuite de certains de ses livres. Donc on suit comme ça l'ensemble. Et dans ce texte-là, dans un des premiers textes finalement sur la question de la presse underground, elle donne quelques indices aussi, me semble-t-il, sur la manière dont elle envisage ce rapport au journalisme. Elle dit en effet pas d'objectivité, l'objectivité est un leurre, et elle dit une autre chose, c'est pas d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la chose politique, à la chose culturelle, qui se fait sur le temps long, qui s'écarte d'une certaine manière de ce qu'on entend dans le journalisme ou dans la presse, qui est le rapport à l'actualité. Il y a ce pas de côté. Peut-être nous parler un petit peu de ça. On vient de parler un peu de pas d'objectivité, mais aussi de ce rapport à un temps plus long, à un regard porté finalement sur des lames de fond, sur des mouvements presque de la société, me semble-t-il.
Oui, quand elle... En fait, il y a un paradoxe chez Didion, c'est qu'elle est très ancrée dans son époque, que ce soit au tout début de sa carrière dans les années 60 ou dans les années 2000 ou quand elle est à New York dans les années 90 et qu'elle écrit un long reportage fleuve sur un fait divers, le meurtre d'une devenue célèbre, d'une joggeuse dans Central Park. Elle peut parler de choses qui relèvent effectivement de l'actualité, de l'époque, de quelque chose de très très précis, mais immédiatement, elle est dans un grand angle. Elle est tout de suite, tout ce qu'elle voit, que ce soit de l'actualité qui relève du fait divers, de choses assez éphémères et qui relève de l'actualité, c'est immédiatement passé chez elle au tamis, au filtre d'une réflexion beaucoup plus vaste, et ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus globale, historique, sociologique, littéraire, de ce qu'est son époque en général, de ce qu'est l'Amérique. Elle a tout de suite un recul. Elle a toujours du recul. Donc, l'objectivité pour elle, quand elle dit pas d'objectivité, c'est pour elle, c'est une aporie, c'est impossible. L'objectivité est impossible. À partir du moment où on parle, à partir du moment où on écrit, il y a quelqu'un derrière. Et ce quelqu'un, il écrit et il voit les choses à travers son propre bagage. C'est pour ça que... quand elle parle d'un événement, quand elle fait le portrait d'une personnalité, comme par exemple dans ce recueil, il y a plusieurs portraits, il y a un portrait de Nancy Reagan, à l'époque où Reagan n'est pas encore président, il est gouverneur de Californie. Il y a un portrait de Martha Stewart qui clôt le recueil, qui est la grande prêtresse des émissions culinaires, des choses comme ça, qui a créé un empire. Elle fait des portraits, mais elle est toujours là, elle est toujours dans le champ, un petit peu en retrait. Et c'est à cette condition qu'elle peut parler des choses qui l'environnent. Donc effectivement, on est à la fois dans une actualité et toujours dans quelque chose de beaucoup plus global. Et Didion revient en permanence. Chaque sujet est pour elle l'occasion de reparler de choses qui la constituent, qui la hantent. Alors ce sont, comme tu l'as dit, ses origines. Sacramento, la Californie des années 30, ça revient de manière lancinante. Son rapport à New York, à la côte Est en général, elle est très géographique. Si elle se met à parler de quelque chose d'historique, elle va vous parler de géographie. Si elle parle de géographie, elle va vous parler d'histoire. Tous les points de vue se mêlent. Elle a une capacité comme ça à mêler des points de vue différents, à entremêler, à faire s'embrasser de l'objectif et du subjectif. Donc ça crée des textes d'une densité et d'une richesse assez exceptionnelles. Et en tout cas, ça donne au lecteur l'impression d'un regard extrêmement, extrêmement singulier.
Je parlais tout à l'heure des années 60-70, de la contre-culture. Dans le gros recueil des chroniques d'Amérique, il y a des choses qui sont liées à cette époque-là, très fort. On pense à l'affaire Manson, on pense aux Black Panthers, on pense même aux phénomènes musicaux, hein, les Doors, Morrison, etc. On pourrait même penser à des gens comme Grail Marcus ou comme Lester Banks, des rock critiques qui étaient pas si loin que ça du nouveau journalisme. Et en même temps, il y a toujours chez elle, me semble ce regard sur les périodes, sur les époques, comment est-ce qu'elles naissent, comment est-ce qu'elles se terminent, comment est-ce qu'elles évoluent, avec aussi toujours une dimension finalement assez tragique de l'évolution des utopies, de la manière dont l'Amérique se comporte par rapport à l'aspect politique. Est-ce que peut-être nous dire un mot de cette dimension-là?
Oui, il est évident quand on lit les reportages de Didion qui sont effectivement... Alors en français, ils ont donc été publiés en 2010, il me semble, dans un recueil qui s'appelle donc l'Amérique, chronique de l'Amérique. Il faut savoir que c'est vraiment une toute petite partie de son œuvre de journaliste, que si vous prenez l'édition américaine de cette œuvre journalistique... En gros, ça ressemble à une Pléiade, sinon à deux volumes de Pléiade en anglais, avec des livres entiers consacrés, par exemple, à Miami, à la guerre au Salvador, à des choses comme ça qu'ont été laissées de côté dans l'édition française. Donc, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais qui donne une idée très représentative de son travail, de l'ampleur, de l'amplitude de ses sujets, des sujets qui l'intéressent, et de la manière dont elle les aborde. La contre-culture, ce qui me semble important, c'est par rapport à la manière dont tu as présenté les choses, c'est qu'il faut bien comprendre que Didion, elle n'est pas du tout dans une démarche analytique. Quand elle part sur le terrain, faire des reportages dans une communauté hippie à San Francisco, au procès des jeunes filles de la bande de la famille Manson, après le meurtre de Sharon Tate, ou le procès des jeunes gens accusés du meurtre de la joggeuse à Central Park, elle n'est pas dans une analyse, ni politique, ni sociologique. La manière dont elle écrit, la manière dont elle témoigne de ça, n'est jamais réflexive. Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ne fait que ça sans cesse. Hein, le cerveau bouillé est en ébullition permanente. Mais dans l'écriture, on a toujours quelque chose, en apparence, d'assez neutre, d'assez factuel, où elle se contente de rapporter des observations. Y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion, en tout cas formulée comme telle. Et Didion a un talent assez extraordinaire, et là encore très cinématographique, je pense que ça a à voir, c'est pas un hasard s'il a été aussi scénariste. Elle est avant tout visuelle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a une capacité à vous faire comprendre énormément de choses, politiques, sociologiques, sans du tout expliquer. Et par exemple, il y a ce reportage mythique, effectivement, dans une communauté hippie à San Francisco en 68, qui est effectivement, on comprend immédiatement en le lisant que c'est une charge terrible, tragique et dévastatrice sur l'échec absolu de l'utopie hippie. Mais à aucun moment elle plaque un discours idéologique là-dessus. Elle se contente de montrer et d'écrire un paragraphe sur la vision d'une petite fille nue qui a 5 ans et qui est complètement défoncée à l'acide au milieu de gens qui traînent dans une baraque défoncée dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Et rien qu'en montrant cette image par la seule force de sa grammaire, de ses mots, de la manière dont elle montre ça, nous, on comprend absolument tout ce qu'il y a derrière, tout le poids historique et politique et tragique de cette histoire. C'est ça que je trouve d'une puissance assez extraordinaire chez Didion, c'est qu'elle se retient toujours de plaquer un discours, une idéologie, un jugement. Elle montre, et c'est son écriture est souvent faite comme ça, de collages d'images, d'impressions, de choses extrêmement intimes, et elle va parler de ce que elle ressent, mais ça va transmettre énormément de choses sur son environnement immédiat. Voilà.
Heureusement que vous n'êtes pas un spécialiste, hein, parce qu'autrement, peut-être je vous propose, parce qu'il y a un texte effectivement qui est au cœur de ce recueil-là, qui s'appelle Pourquoi j'écris. Et qui est vraiment un texte qui dit vraiment des choses sur à la fois les influences, ce dont elle se réclame finalement, et notamment Orwell. On parlera après d'Hemingway, mais peut-être lire un petit extrait de cela, et puis on réagit, parce que ça place aussi à la fois sa langue, sa manière et des enjeux très forts de son rapport au travail.
Avec plaisir. Voilà, j'y suis. Donc c'est un texte qui s'appelle « Pourquoi j'écris » et qui date de 1976. Pourquoi j'écris ? J'ai bien entendu voler le titre de cette intervention à George Orwell, « Why I Write ». L'une des raisons pour lesquelles je le lui ai volé, c'est que j'aime le son de ces mots, Why I Write. Vous avez là trois petits mots brefs et dépourvus de toute ambiguïté qui ont une sonorité en commun. Et la sonorité qu'ils ont en commun est celle-ci. I. Je. Par bien des aspects, écrire, c'est l'acte de dire je, d'imposer sa présence à autrui, de dire écoutez-moi, voyez les choses à ma façon, changez de point de vue. C'est un acte agressif, hostile même. Vous pouvez déguiser cette agressivité autant que vous voulez, en la voilant de propositions subordonnées, de qualificatifs et de subjonctifs précautionneux, d'ellipses et de dérobades, en convoquant tout l'arsenal qui permet d'intimer au lieu d'affirmer, de suggérer au lieu de déclarer. Mais inutile de se raconter des histoires, le fait est que poser des mots sur le papier est une tactique de brute sournoise, une invasion, une manière pour la sensibilité de l'écrivain d'entrer par effraction dans l'espace le plus intime du lecteur. J'ai volé ce titre non seulement parce que les mots sonnaient justes, mais parce qu'il me paraissait résumer de la façon la plus simple et directe tout ce que j'ai à vous dire. Comme beaucoup d'écrivains, je n'ai que ce seul sujet, ce seul domaine, l'acte d'écrire. Je ne peux vous livrer le reportage d'aucun autre front. J'ai d'autres centres d'intérêt, sans doute. Je m'intéresse, par exemple, à la biologie marine. Mais je ne me pique pas de croire que vous vous déplaceriez pour m'entendre en parler. Je ne suis pas une érudite. Je ne suis en aucun cas une intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire que lorsque j'entends le mot intellectuel, je sors mon revolver. Simplement que je ne pense pas en termes abstraits. À l'époque où j'étais étudiante en premier cycle à Berkeley, j'ai essayé, animée par une espèce d'énergie post-adolescente désespérée, de me procurer un visa temporaire pour entrer dans le monde des idées, de me forger un esprit capable de se confronter aux idées abstraites. Bref, j'ai essayé de penser. J'ai échoué. Mon attention était inexorablement ramenée vers le spécifique, le tangible, vers ce qui était généralement considéré, par tous les gens que je connaissais à l'époque et par tous ceux que j'ai rencontrés depuis, du reste, comme des sujets périphériques. Je m'efforçais de contempler la dialectique hegelienne, mais finissais par me concentrer sur un poirier en fleurs derrière ma fenêtre et sur la façon singulière dont les pétales tombaient par terre. Enfin, je vais peut-être m'arrêter là, mais ça donne une idée quand même, je trouve, assez juste. Enfin, elle le dit beaucoup mieux que nous, quoi, ce qu'elle fait. Elle a une conscience quand même très, très... Elle est très lucide sur la manière dont elle fonctionne, dont elle pense et dont elle écrit. Et dans ce recueil en particulier, c'est assez fascinant.
Et ce qui est intéressant, il y a deux choses là dans ce que tu viens de lire. Et peut-être la première, c'est cette question de l'écriture comme outil, comme symbole d'une forme d'agressivité, de prise de position. C'est quand même un terme qu'on ne lit pas si souvent que cela dans la bouche d'écrivains ou de journalistes. C'est aussi quelque chose qui affirme une identité, un regard de manière très très forte. Ça, c'est à la base aussi vraiment de son travail de journaliste en particulier, mais pas seulement. Il me semble que c'est vrai aussi dans son œuvre littéraire.
Oui, ce qu'elle dit, c'est que à partir du moment où on écrit, quoi qu'on écrive, on est dans une, elle le dit littéralement, dans une intrusion, dans une agressivité, parce que c'est une sensibilité qui s'adresse à, qui se projette vers le monde extérieur, qui vient bousculer la personne en face de vous, la personne qui vous lit, la personne à qui vous vous adressez, la personne à qui vous montrez les images d'un film. Dès qu'on est dans ce rapport d'un créateur et d'un spectateur, d'un écrivain et d'un lecteur, on est dans une interaction qui, pour elle, manifestement, est de l'ordre de l'agressivité, de l'hostilité. Donc c'est assez singulier comme point de vue. Et parce que je pense qu'elle-même, en réalité, le vit comme ça. Elle le raconte dans beaucoup de textes. Le monde lui-même, le monde qui l'environne, est aussi une agression permanente. Et elle est quelqu'un de très... à la fois qu'elle a une puissance, une force d'écriture, de vision, et en même temps, elle ne cesse de se décrire comme quelqu'un d'extrêmement fragile, de très perméable aux émotions, aux atmosphères, aux ambiances. Et c'est quelqu'un qui se dit constamment en position d'être agressé par le monde qui l'entoure, par les choses qu'elle voit, par les choses qu'elle ressent. Elle est criblée comme ça d'émotions en permanence. Et tout son travail consiste à essayer de rendre ça, de rendre ce qu'elle éprouve, comme par un effet de boomerang, en écrivant et à son tour en projetant cette violence en fait, cette violence générale du monde qui l'entoure, par une forme de violence qu'est l'écriture. Mmh.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est dans la suite de ce texte que tu viens de lire, il y a aussi cette idée du rapport à une littérature, à une écriture intellectuelle ou intellectualisante. C'est-à-dire que elle parle de la théorie hegelienne et de sa préférence pour le Poirier. Il y a quelque chose qui se joue là aussi dans un regard. C'est-à-dire un regard sensible au monde, certainement, et en même temps un regard sur le minuscule plutôt que sur le surplombant, sur le détail plutôt que sur la théorie globale. C'est presque un programme politico-littéraire, une éthique du regard d'une certaine manière qu'elle dévoile ici.
Oui, une éthique du regard et un refus, alors pour le coup, là aussi, très très prononcé, très violent, un refus justement de l'intellectualisme, c'est de la position intellectuelle, de la position supérieure de l'écrivain ou du journaliste ou de l'érudit qui explique, qui voudrait expliquer les choses aux autres. Elle, c'est pas du tout son projet et effectivement, c'est une éthique qui est finalement d'une grande humilité, c'est-à-dire qu'elle se défend avec beaucoup de véhémence justement d'être capable d'expliquer le monde. Et elle ne prétend absolument pas expliquer les choses. Elle dit « mon seul boulot en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en tant que cinéaste, de scénariste, c'est de montrer et c'est d'essayer de transmettre une émotion qui est... dont je n'ai pas les clés, dont moi-même je ne comprends pas ce qui me traverse, ce qui me heurte, ce qui me bouscule, ce qui m'émeut, ce qui me bouleverse. C'est de le transmettre par le simple outil des mots. Et elle dit tout le temps, voilà, je ne sais pas penser, je ne sais pas théoriser, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de plan, voilà, je n'ai rien à démontrer, mais j'ai des choses à montrer. Voilà. Et je pense que si on devait résumer ça en un gimmick, Didion est quelqu'un qui montre et qui ne démontre jamais.
Et en même temps, on ne l'a pas évoqué, mais dans ses textes, dans ceux-ci, dans d'autres, il y a quelque chose aussi qui se situe dans une sorte d'entre-deux, me semble-t-il. C'est à la fois quelque chose d'une forme d'humour, de dérision, d'ironie, quelque chose d'assez piquant en réalité dans son rapport au monde, dans sa langue, dans sa manière d'être, et en même temps quelque chose d'une grande radicalité, parfois d'une grande forme de cruauté sur les jugements portés. Il y a cette espèce d'entre-deux, il me semble en tout cas, entre une forme d'ironie et de cruauté, l'un pouvant aller avec l'autre d'ailleurs évidemment, puisque l'ironie est une arme aussi évidemment importante pour dire le monde dans sa complexité et dans sa vérité d'une certaine façon.
Oui, ça effectivement, ça me semble très important de le souligner, d'autant qu'en général, pour les gens qui connaissent déjà un petit peu Didion ou qui en ont entendu parler ou qui l'ont lu, sans doute l'humour n'est-il pas le premier, la première caractéristique. Voilà, elle n'est pas classée au rayon livre humoristique, hein, Didion. Elle a plutôt une image, une réputation de quelqu'un au contraire d'assez d'assez froid, d'assez sec. Elle a entretenu d'ailleurs à cette image d'une sobriété, d'une sécheresse, sécheresse qui de fait existe. Hein, et elle a son écriture elle-même, elle est à l'os, elle est très sèche. Il y a pas de, c'est pas rococo. Hein, il y a jamais un mot de trop, jamais une virgule de trop. C'est vraiment aller à l'essentiel, ne pas s'embarrasser de fioritures. Et la drôlerie ne saute pas aux yeux. Mais quand on la lit, c'est assez subtil. Alors moi, c'est peut-être de l'avoir un petit peu trop fréquentée, mais je finis par trouver cette femme extrêmement drôle. Et je trouve que finalement, on rit souvent en lisant Didion, à condition d'avoir bien capté sa fréquence, parce que son humour se glisse dans des petites choses comme ça. C'est très discret, c'est très ponctuel, c'est très acerbe. Mais par exemple, il n'y a pas d'effet de manche. C'est ça qui fait que ça ne saute pas aux yeux. Mais quand vous lisez le portrait de Nancy Reagan en train de cueillir des roses dans sa roseraie pour un reportage télévisé, c'est effectivement d'une cruauté terrible et c'est d'une drôlerie irrésistible, mais oui, presque un petit peu. C'est pas dénué de méchanceté, c'est pas dénué, enfin de méchanceté, d'ironie sans doute, de cruauté. Mais il y a un humour certain, il y a un humour dans le décalage entre les choses vues et le dérisoire. En fait, elle a un talent formidable pour mettre en relief le dérisoire, le pathétique ou le tragique, mais avec un ton qui est à la fois distant et en même temps empreint d'une réelle empathie. Voilà, elle est toujours sur cette ligne de crête. On ne sait jamais trop vers quel côté elle penche. Elle ne se moque pas. Elle n'est pas du tout moqueuse. Elle n'est pas méchante. Je crois que je vais retirer ce mot. Il n'y a pas de méchanceté chez Didion, mais il y a une forme de sécheresse et de cruauté, mais qui vient de sa propre perception du réel, qui est une perception quand même assez à la fois tragique et fataliste. C'est quelqu'un qui accepte le monde comme étant un endroit de pure violence, en fait, en permanence. Qu'on parle des tout petits sujets comme des choses immenses et générationnelles et historiques qui nous dépassent.
Voilà. On a parlé d'Orwell, je vois que le temps passe très vite. On va encore prendre 2-3 points sur ce parcours-là, puis je vous donnerai la parole si vous voulez intervenir, poser une question. On a parlé d'Orwell, il faut qu'on parle d'Hemingway, puisqu'il y a un texte qui lui est consacré, et c'est vraiment une référence énorme pour elle. Peut-être nous parler un petit peu de ça, de la manière dont elle s'inscrit dans les pas d'Hemingway. Comment est-ce que sa langue, là aussi son rapport au monde, tu parlais de sécheresse, d'une forme d'écriture à l'eau, sans gras, etc. Il y a quelque chose qui se joue dans cette filiation-là.
Oui, c'est une filiation. Alors, elle revendique assez peu ses influences en général, Didion. Et le fait est que c'est aussi pour ça que c'est devenu quelqu'un d'aussi important aujourd'hui dans le paysage littéraire américain et au-delà. C'est quand même quelqu'un qui écrit comme personne n'avait écrit avant elle. Donc, elle a vraiment inventé une voie. Elle sait, si elle a eu des influences dont elle parle dans sa jeunesse notamment, elle s'en est affranchie assez rapidement et elle a trouvé sa propre musique et sa propre voix. Mais c'est vrai que de temps en temps, elle revient, et dans ce recueil en particulier, sur deux figures qui l'ont profondément influencée. Je ne dirais pas ça, parce que l'écriture de Didion n'est pas du tout l'écriture de Hemingway, ni celle de Orwell. C'est l'écriture de Didion, et il n'y en a pas deux comme ça. De la même manière qu'elle-même a influencé par la suite énormément d'écrivains qui se réclament d'elle, et... quelqu'un comme Bret Easton Ellis, par exemple, a toujours dit mon idole absolue en termes de d'écriture, de style, c'est John Didion, et c'est le cas pour un très très grand nombre d'écrivains contemporains. Mais personne n'écrit comme elle, et elle n'écrit comme personne avant. En revanche, effectivement, elle parle très souvent de Hemingway, elle parle très souvent de Orwell, mais moins comme une influence sur son propre travail que comme un modèle là encore, pour employer un mot assez juste que tu as employé, d'éthique. Alors, pas d'éthique morale, mais d'une éthique esthétique, en quelque sorte, une éthique d'écrivain. Et quand il y a ce texte assez prodigieux, sur un long texte sur Hemingway, qui en réalité parle aussi de la liberté de l'écrivain et de la propriété, de la liberté, de l'autonomie qu'a l'écrivain de décider de ce qu'il écrit, et qu'on n'a pas le droit de lui couper une virgule, en gros. Et c'est 30 pages pour dire c'est scandaleux. Elle parle parce qu'elle parle de l'œuvre posthume de Hemingway, avec des gens qui ont décidé de republier son œuvre en rebidouillant un peu des textes non publiés. Donc l'angle de ce texte est là. Mais le tout début du texte parle... c'est très inattendu, parce qu'on s'attend à un hommage à Hemingway, formidable écrivain, et pas du tout. En fait, elle prend un paragraphe qui est le début de l'adieu aux armes. Et elle se livre à une espèce d'analyse mathématique ou statistique du nombre de virgules, du nombre d'adjectifs, du nombre d'articles définis ou indéfinis dans cette phrase. Et elle dit, voilà, le génie de Hemingway, il est tout entier dans le fait qu'il y a 13 virgules, qu'elles sont à cet endroit et pas à un autre. Et un écrivain, c'est ça. C'est quelqu'un qui réfléchit à la place de la virgule dans une phrase. Et elle s'arrête là, donc là aussi de manière un peu provoque, en disant, pour moi... un écrivain, c'est juste quelqu'un qui réfléchit à la place de la virgule dans un texte. Voilà. Évidemment, c'est très légèrement exagéré. Mais... Et elle trouve en Hemingway ça. Elle trouve en Hemingway cette espèce d'exigence portée à l'extrême du mot juste, de la cadence juste, le choix du mot, le choix de la rythmique, le choix d'une ponctuation, et c'est très intéressant, parce que sans le théoriser, elle explique finalement que sa conception de l'écriture, sa conception de l'art, c'est quelque chose qui est fondé sur quelque chose d'extrêmement subjectif et de très sensible. C'est quelqu'un qui écrit, je crois qu'elle le dit d'ailleurs à un moment, elle dit « moi j'écris à l'oreille ». J'écris pas, à partir de mes idées, j'écris pas à partir de, j'ai aucun message à faire passer. En revanche, j'entends des choses. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est presque, elle écrit presque en musicienne. Elle dit, moi, j'essaye de trouver le mot qui dit exactement ce que je ressens. Voilà, c'est ça mon travail.
Pardon, peut-être encore une chose, c'est que en tout début de rencontre, en introduction, j'ai dit que c'était vraiment une figure culte des lettres américaines. On vient de parler beaucoup, évidemment, des contenus et des raisons littéraires, intellectuelles, etc., qui ont fait la place de John Didion dans l'histoire littéraire du nouveau journalisme américain. Et peut-être faire un petit pas de côté... un peu plus anecdotique, mais qui me semble quand même important, c'est l'histoire qu'elle vit aussi personnellement avec John Gregory Dunne, avec son mari, et cette dimension dont on comprend aussi lorsqu'on lit des choses sur elle, que ce couple était quelque part un couple culte, un couple mythique. Ils ont fait des films ensemble, ils ont décidé de quitter New York pour retourner de l'autre côté des États-Unis, et il semblerait qu'il y a quelque chose qui se joue aussi... dans l'image, dans ce qu'ils sont véritablement, qui les fait entrer presque dans la mythologie. Est-ce que tu dirais cela, même si j'entends bien que c'est sans doute secondaire dans son ancrage, etc., que c'est avant tout ce qu'elle a fait qui compte. Il y a quand même quelque chose lorsqu'on lit des choses à ce sujet qui nous font comprendre cela, me semble-t-il.
Oui, alors c'est pas que c'est secondaire, c'est qu'elle-même n'a jamais eu pour projet d'être une l'égérie qu'elle est devenue. Je pense même que ça devait la gêner aux entournures un petit peu d'être aussi. Mais c'est vrai que malgré elle, à travers ses écrits et à travers sa propre personnalité, je dirais même physiquement, parce que c'était un personnage quand même assez extraordinaire, petite femme très frêle comme ça, avec une apparence fragile et qui en même temps qui dégage une puissance, une aura, quelque chose de magnétique qui allait bien au-delà de son œuvre, de son travail d'écrivain, et qui effectivement très vite l'a imposé comme une figure presque au même titre que ça a créé chez les gens une fascination qui est celle qu'on peut avoir pour des acteurs de cinéma, voilà, il y avait quelque chose chez elle comme ça qui dépassait de loin son statut d'écrivain. Et effectivement, dans le couple qu'elle formait avec John Gregory Dunne, il y a eu ça aussi. Alors, c'est un couple, je me garderais bien de le qualifier d'ailleurs, parce que par la force des choses, je les ai pas connus. Et finalement, elle a beaucoup parlé de son couple, mais tout en restant assez discrète. Hein, c'est pas quelqu'un de, il y a jamais d'obscénité hein, chez Didion. Il y a jamais de, il y a une forme d'autofiction. Il y a une forme de elle parle d'elle, elle parle de son couple, elle parle de son mari, elle parle de sa fille, de sa fille adoptive, de la mort de sa fille. Donc elle parle de choses extrêmement personnelles, privées, intimes. Mais elle se débrouille pour que ça reste quand même... Il y a toujours un voile qui vous empêche d'aller au-delà de ça. Donc il n'y a pas d'obscénité. Et finalement, on ne sait pas grand-chose de ce couple, d'elle-même. Mais... Ils n'en ont été que plus fascinants, surtout à une époque où effectivement ils ont tous les deux été des personnages assez centraux dans le monde du cinéma, la contre-culture, le nouveau cinéma hollywoodien des années 70. Leur grand moment au cinéma, c'est notamment quand ils signent le scénario de Panic à Needle Park de Jerry Schwartzberg, qui s'inscrit résolument justement dans le travail des reportages de Didion sur les... sur cette espèce de nouvelle génération perdue post-hippie des années 70 et 80 et le monde de la drogue, etc. Et suite à ces... Voilà, ils ont leur place à eux deux, et puis la place de John Didion elle-même a dépassé effectivement les frontières de la littérature pour l'ancrer dans un paysage culturel, intellectuel de son époque, qui fait que sur ses vieux jours, elle est même devenue une égérie du monde de la mode. Je veux dire, l'une des dernières fois où on a vu voilà, dans l'espace public John Didion, c'était pour une campagne de pub pour une marque de vêtements extrêmement chic, new-yorkaise, sobre, dont je ne citerai pas la marque. Mais donc oui, elle a dépassé ce monde-là, elle a dépassé le monde de littérature. Sa figure, elle est au-delà de son œuvre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aux États-Unis en tout cas, qui connaissent Didion sans l'avoir jamais lu. Elle a cette position-là parce qu'elle a une aura assez indéniable, puissante et en même temps toujours très énigmatique.
On évoquait au tout début le livre qu'il a fait connaître en France, L'année de la pensée magique. Et en effet, c'est un livre de deuil, comme tu le disais, sur la mort justement de John Gregory Dunn. Peut-être nous reparler de ce livre-là, de la force qu'il a eue et de la façon dont il est aussi un livre qui est en diptyque avec un autre livre de deuil. C'est finalement deux romans qui l'ont peut-être fait connaître de manière beaucoup plus large, où il y a effectivement de l'intime, où il y a de l'écriture de soi, de l'autobiographie, mais où il y a avant tout de l'écriture. Il y a avant tout de la langue, du rapport à la littérature en tant que telle. Peut-être tu peux nous reparler de ce livre-là et peut-être du diptyque.
Oui, alors c'est très simple. En 2005, le John Gregory Dunn, donc le mari de John Didion, décède très subitement d'une crise cardiaque. Et John Didion décide d'écrire un livre, tout simplement, sur la disparition de son mari et sur l'année de deuil qui a suivi. Il se trouve qu'au moment où paraît le livre aux États-Unis, leur propre fille, Quintana, qui est une fille adoptive, elle-même est très malade et va à son tour décéder pratiquement au moment même où paraît le livre sur la mort de son mari. Donc il y a ce double deuil terrible, coup sur coup, dont vont naître deux livres, L'année de la pensée magique et ensuite Le bleu de la nuit sur sa fille. Mais finalement, en en parlant, je m'aperçois qu'on dit que ce sont des livres de deuil et en réalité, ce sont des anti-livres de deuil. Parce que tout le projet de Didion, et c'est ça qui rend ces livres assez extraordinaires, c'est que ce sont des livres qui se refusent à justement à parler de la mort, à parler du deuil en versant la moindre larme. Et je crois que l'une des toutes premières phrases de l'année de la pensée magique, c'est même pas une phrase, elle pose la question de l'apitoiement. Et en fait, c'est évidemment ça qu'elle se refuse à faire, c'est-à-dire expliquer, raconter le chagrin, la peine, la douleur, la mort. Donc, elle prend immédiatement le contre-pied de ce qu'est en général un livre de deuil, un livre de tristesse, un livre de perte. Alors évidemment, elle n'en fait pas non plus un livre joyeux. C'est pas du tout l'enjeu, ni un livre d'ailleurs de souvenirs ou d'hommages. C'est là encore, en fait, elle aborde un deuil très intime, un deuil intime, personnel, comme un objet à décortiquer, à décrypter, à analyser. Et elle se regarde elle-même en deuil. Elle se dit, voilà, comment je fonctionne, moi ? Là, je suis effondré. Je viens de perdre mon mari, je viens de perdre ma fille. À quoi ça ressemble quelqu'un qui vient de, en l'occurrence moi, à quoi ça ressemble quelqu'un qui vient de subir coup sur coup ces deux choses-là ? Donc, c'est quelque chose qui a pu rebuter certains lecteurs, c'est-à-dire cette espèce de distance qu'elle instaure entre son sujet, surtout quand ce sujet c'est elle-même, et la mort et la disparition, enfin des événements extrêmement tragiques. Et pourtant, et je pense que c'est toute la magie, c'est le cas de le dire, de l'année de la pensée magique et du bleu de la nuit, pourtant elle arrive à faire passer une émotion extrêmement puissante, mais sans aller chercher justement l'émotion, sans aller chercher le tire-larme, sans chercher à créer de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas lu ailleurs. C'est la capacité à faire advenir l'émotion par le refus même d'écrire de manière émotionnelle. Ça, il y a quelque chose là-dedans qui est, à mon sens, pas tellement explicable. Et tant mieux, il faut que ça reste du domaine du mystère de l'écriture et de la création artistique. Elle a trouvé ce point... Ce point d'équilibre mystérieux qui fait que toute l'émotion, parce que ce sont deux livres authentiquement bouleversants, mais où à aucun moment elle ne convoque des effets de style ou des choses romantiques ou émotionnelles. Voilà. Donc à travers sa sécheresse apparente, en fait elle provoque des émotions extraordinaires.
Chantal Thomas, dans sa préface, elle dit que c'est une auteure anti-romantique, effectivement. Oui, oui. Peut-être juste une chose, tu es le traducteur de l'année de la pensée magique ?
Oui, absolument.
Qu'est-ce que tu dirais sur la manière, les souvenirs que tu as de cette traduction, ce que tu as, toi, par rapport à sa langue, eu comme problématique, comme questionnement, comme enjeu spécifique en tant que traducteur ?
C'était très dur. Voilà ce que je peux te dire. Ouais. C'était très dur et très exaltant. Pour toutes les raisons dont on a déjà parlé, l'écriture de Didion étant extraordinairement économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de trop et chaque mot est mûrement pesé et réfléchi, on ne peut pas tricher. Et quand on est traducteur, des fois, on triche un peu. Par la force des choses, on adapte, on trouve des manières de s'infiltrer dans un texte, de le reformuler de telle manière qu'en français, ça... Bon. Et là, il n'y a pas d'espace. Le texte est tellement dense, tellement ramassé, son écriture, elle est tellement consciente de chaque mot qu'elle pose, qu'il faut rendre au plus près. C'est de la même manière qu'elle-même décrypte un texte de Hemingway en disant « ce texte, il est important parce qu'il y a 8 virgules et 5 adjectifs », pour elle, c'est pareil. Et une phrase qui fait, dont la cadence est comme ça chez Didion, on ne peut pas la rendre autrement en français. Il faut être au plus près de sa rythmique. Plus que pour un autre auteur, on s'interroge longuement sur le mot qu'il faut choisir. Et on ne peut pas beaucoup se tromper. Il n'y a pas beaucoup de place pour se tromper. Et en même temps, c'est absolument exaltant. Voilà, parce qu'elle elle vous pousse dans vos retranchements en tant que traducteur. Mais c'est absolument passionnant. Et puis, une fois qu'on entend, une fois qu'on a capté la fréquence musicale de Didion, bizarrement, il se passe quelque chose. C'est qu'on. Moi, j'ai eu la chance de traduire plusieurs livres d'elle. Au bout d'un moment, on connaît sa musique, comme un musicien qui serait familier de la partition ou du style musical d'un compositeur. On connaît sa fréquence, on connaît sa musicalité, on connaît. Et finalement, ça devient. Je ne vais pas dire facile, mais on se coule dans ce rythme-là, dans cette musicalité, dans cette manière d'écrire. Et on en est contaminé, en quelque sorte. Et on finit par, je ne dirais pas écrire comme elle, mais elle vous dicte le tempo. Et à partir du moment où on a franchi cet obstacle, à partir du moment où on a appris sa grammaire qui n'appartient qu'à elle, il faut apprendre sa langue. En réalité, quand on traduit Didion, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue, c'est presque comme apprendre une nouvelle langue. C'est réapprendre un anglais qui n'appartient qu'à elle. Donc, il faut... apprendre le Didion, il faut apprendre à parler le Didion, voilà. Puis quand on sait le parler, essayer de l'écrire en français.
Il semblerait que tu le parles couramment désormais. Je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole, on a quelques minutes, si vous avez envie d'avoir peut-être une précision sur ce qu'on a dit autour de l'œuvre et du parcours de Didion. C'est évidemment un peu lacunaire, mais on en a pris quelques jalons pour essayer de vous donner envie aussi d'aller retrouver ses livres. Est-ce que vous souhaitez intervenir ? N'hésitez pas à le faire. Oui, allez-y. Juste prendre le micro, s'il vous plaît.
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention.
Je vous en prie, merci.
Je trouve que, justement, on a la chance d'aller au cœur de l'intimité de John Didion avec votre, toute cette description, ce travail très riche que vous avez dû faire autour de son œuvre. Je vais vous poser une question qui peut peut-être vous paraître complètement délirante. Il ne s'agit pas de rechercher des filiations, des influences, etc., mais des parentés. Avec une écriture là, d'une écrivaine française qui est Annie Ernaux. Et je trouve qu'il y a une parenté qui est très forte, qui est liée justement à cette sécheresse de l'écriture, à l'écriture comme un couteau, justement, au mot qui ne peut pas être remplacé par un autre, à cette précision et à cette exigence. Est-ce que ça vous paraît délirant ? Est-ce que ça vous parle ?
Loin de là.
Vous êtes dans une posture de traducteur, donc je comprends tout à fait que... Vous avez aussi la vision de l'anglais, donc qui est encore, ce qui a introduit un autre rapport au texte. Mais bien que leur sujet ne soit pas du tout proche en soi, ce ne sont pas les mêmes récits, je trouve qu'il y a vraiment une. C'est quelque chose qui m'a frappée en tout cas.
Non, mais ça me paraît très juste. D'abord, c'est non seulement très loin d'être délirant, mais si vous faites, vous, en tant que lectrice, une parenté entre Didion et Ernaux, ça veut dire qu'elle existe. Parce que ça veut dire, et je trouve que la leçon de Didion, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de « Ah non, Didion et Ernaux, ça n'a rien à voir. » Ou Didion et, je ne sais pas moi, Duras, ça n'a rien... À partir du moment où vous, en tant que lectrice, vous faites cette filiation, où il y a cette connexion qui s'opère chez vous, vous avez lu Didion, vous avez lu Ernaux, et pour vous, ça va dans la même famille, c'est-à-dire dans la même expérience de lecture. Et à ce moment-là, c'est juste. Et je trouve que Didion enseigne ça. C'est-à-dire que Didion, elle vous dit, il n'y a pas de case prédéterminée. C'est... moi, quand j'écris, je pense à Hemingway. Vous, quand vous lisez Didion, vous... ah, ça vous rappelle Ernaux. Ces correspondances-là, elles ne sont pas prédéterminées. C'est vous qui les créez en tant que lectrice. Donc, c'est loin d'être délirant. Et je pense effectivement qu'il y a une parenté, sans doute pas dans, ni dans les sujets, ni même forcément dans le style, mais dans ce que ça suscite comme émotion et dans cette manière de, d'aborder cette écriture de soi, en réalité. Ce qui les rassemble, je pense que c'est une manière d'aborder l'écriture de soi, qui est un très vaste sujet et qui se décline. Je veux dire, chaque écrivain qui s'est pris soi-même comme sujet, d'une manière ou d'une autre, le décline à sa façon. Mais Didion comme Ernaux, on est clairement dans une problématique qui est celle de l'écriture de soi. C'est une évidence, même si ça passe par des sujets extérieurs.
Peut-être pour terminer, tu as évoqué tout à l'heure l'héritage d'écrivains américains comme Bret Easton Ellis. Y en a d'autres selon toi ?
Non, là je sèche. Non, parce que j'avais... Je te le disais, moi je... Vraiment, alors c'est ma lacune à moi, mais je n'ai pas encore rencontré un autre écrivain qui ait ce même... qui est ce même genre d'écriture, cette même sécheresse. C'est même pas une question d'écriture, je pense que c'est aussi un rapport au monde qui est extrêmement singulier. Didion en parle elle-même beaucoup. Elle dit je suis tellement fêlée, et fêlée au sens propre du terme. Hein. Elle se voit comme quelqu'un de traversé de tellement de fêlures et de quelque chose de comme un miroir, comme ça brisé, qui change le regard. Et c'est pas transmissible à quelqu'un d'autre. Donc. Je pense qu'elle a influencé énormément d'écrivains dans sa manière de, dans sa conception de l'écriture, dans sa conception de qu'est-ce que c'est que le rôle, qu'est-ce que c'est que le travail d'un écrivain ou d'un journaliste ou d'un cinéaste. Mais très honnêtement, enfin en tout cas là comme ça de mon chapeau, je ne pourrais pas te sortir de nom d'un écrivain qui serait le digne fils ou la digne fille de Didion. Mais c'est très bien comme ça qu'elle reste un petit peu unique dans son, voilà, dans sa singularité.
Vous pouvez en tout cas retrouver, je pense, sans doute à la librairie, des livres de John Didion. On a évoqué bien sûr ce gros livre sur les chroniques de l'Amérique. Il y a un certain nombre de romans qui ont été publiés. Ce diptyque dont on a parlé.
Et republié d'ailleurs récemment. Et republié récemment. Dans les années 70-80. Ils ont été republiés tout récemment chez Grasset. Aussi.
Chez Grasset, ouais, donc c'est vraiment des livres que vous pouvez retrouver. Ce diptyque, effectivement, dont l'année de la pensée magique. Vous pouvez retourner voir... Panic at Needle Park également, c'est une autre manière d'entrer dans l'œuvre de John Didion avec les débuts de Al Pacino, hein, ça doit être un de ses premiers films.
Et il y a un documentaire, si vous ne l'avez pas vu, il y a un documentaire assez extraordinaire sur Netflix sur John Didion qui a été réalisé par Griffin Dunne, que vous connaissez peut-être, c'est un acteur, quand vous le verrez, vous le reconnaîtrez parce qu'il apparaît dans le documentaire. Il se trouve que c'est le... je crois que c'est le neveu de John Gregory Dunne. Donc c'est le neveu de John Didion, et c'est un acteur, c'est celui qui jouait dans After Hours de Martin Scorsese. Et c'était son neveu, et il a réalisé il y a 5-6 ans, je crois, un documentaire sur Didion, donc assez peu de temps avant sa disparition, où on la voit, et on la voit parler. Et c'est un documentaire d'abord passionnant, parce que ça parle aussi de l'Amérique et de cette traversée du demi-siècle américain qui vient de s'écouler. Et on la voit, elle, et je trouve que c'est passionnant. Elle incarne aussi physiquement cette conception de la littérature qu'on a sous les yeux quand on la lit. Donc c'est assez passionnant, c'est un très beau documentaire.
Je fais une petite parenthèse pour dire que vous pouvez aussi retrouver les livres de Pierre de Marty, notamment En face, et notamment Mort au girafe. Vous avez parlé du love de quelqu'un d'autre, donc on fait un petit mot quand même sur votre travail à vous.
Oui, alors qui est tout sauf influencé par Didion.
Absolument.
Hein, donc si vous aimez Didion, il ne faut pas lire ça du tout. Hein. Voilà. Enfin, on peut lire aussi. Mais
oui, je crois qu'ils peuvent quand même. Juste vous signaler que la rencontre de 15h avec Witold Szablowski, qui est un journaliste polonais qui devait intervenir ici même à 15h, compte tenu des circonstances dramatiques qui se passent aujourd'hui en Ukraine et en Pologne, n'a pas pu venir jusqu'à nous. Il semblerait qu'il soit en direction de la frontière ukrainienne, d'après ce que m'a dit Blandine, mais je te laisse voilà. peut-être la parole.
Il sera bien présent, la rencontre est maintenue. Il sera en visio avec nous. Donc ça se passe dans l'Alvéole Rencontre à 15h. Voilà, mais compte tenu des circonstances, il ne sera, sera pas ici présent. Mais la rencontre est bien maintenue. Voilà, ça commence ensuite.
Dans quelques minutes. Merci beaucoup, mon cher Pierre.
Merci, mon cher
Yann. Et merci de votre écoute.
Merci à vous.
Merci.